Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mesdames et messieurs,
êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast qui tranche toutes les rivalités, même celles auxquelles personne n'avait pensé. Aujourd'hui, c'est un combat de bulles, puisqu'on va décider qui est le plus fort entre Superman et Astérix. Comme à chaque épisode, je suis rejoint par une experte ou un expert, et l'arbitre de ce combat de titans du phylactère est Thomas, qui s'y connaît en matière, puisqu'il nourrit la communauté de Bubble de ses bons conseils BD, comics et manga. Salut Thomas, comment ça va?
Salut Martin, bah ça va super.
Bon, dis-moi Thomas, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Bubble?
Ouais, alors Bubble, c'est une application et qui va devenir bientôt un site internet en plus, qui permet de découvrir, de gérer et d'acheter ses bandes dessinées. Donc en fait, on peut mettre en ligne toute sa collection, savoir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. On peut aussi lire des conseils, des dossiers, des coups de cœur pour découvrir de nouvelles BD, voir les tops de la communauté ou alors l'agenda et recevoir des push personnalisés. Et on peut acheter ces BD, soit les recevoir à domicile, soit profiter des 100 libraires qui sont partenaires pour les réserver chez eux et pour les récupérer donc chez eux sans frais supplémentaires.
Bon, alors on a décidé d'opposer Astérix et Superman parce que ils sont tous les deux très très forts, ils sont tous les deux très très emblématiques de la culture de laquelle ils viennent, du pays duquel ils viennent, et aussi d'un style, de deux styles de bulles différents. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, à la fois d'eux et puis aussi de ce qui représente la BD franco-belge pour l'un et le comics pour l'autre. Avant ça, est-ce que je peux te demander de présenter rapidement nos deux challengers pour éventuellement les gens qui n'étaient pas là au cours des 50 dernières années ou des gens qui découvrent aujourd'hui le monde de la BD et du comics, pourquoi pas, ça peut arriver.
Ouais, ça marche. Bon, bah, je fais pas la voix pour les présenter comme dans le générique. Mais donc en gros, on a d'un côté Superman, qui est l'un des premiers personnages de comics emblématiques, qui a une vie super longue puisqu'il en a 75 ans derrière lui. Et c'est peut-être un des personnages les plus connus au monde de la bande dessinée tout confondu. Et de l'autre côté, on a Astérix, donc qui est la création française, le personnage le plus emblématique de la bande dessinée franco-belge, donc de Goscinny et Uderzo, et qui, pareil, a une super carrière parce que ça s'est décliné d'abord en album traduit dans le monde entier, puis à la radio, puis en film. Mais bon, je pense qu'on en reparle après.
À la radio aussi.
Ouais, à la radio. Alors en fait, Astérix a été adapté direct à la radio l'année d'après la sortie. Parce qu'en fait, Goscinny a animé des émissions radio et il y avait une émission pilote, donc avec les auteurs pilotes. Et ils ont adapté Astérix, mais en vraie adaptation avec des voix. Et d'ailleurs, la personne qui faisait la voix d'Astérix a continué dans les dessins animés les premiers. Et donc, c'était incarné, c'était joué. Donc ouais, ils ont démarré direct.
Ah, intéressant. Ça nous renvoie directement à la dernière adaptation de Tintin par France Culture, du coup.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des parallèles. Mais la radio et la bande dessinée, ça marche vachement bien. Et on parle de Superman. Et Superman aussi a été adapté à la radio dès le début, avant les dessins animés. Et pareil, c'était joué, c'était des fictions radiophoniques. Donc les deux ont commencé à la radio, en fait, finalement.
Ah, c'est marrant. Intéressant.
Thank you.
bien, place au combat. Alors comme d'habitude, on va avoir 5 rounds, un vainqueur à chaque tour, le premier à atteindre les 3 points, ou tout du moins nous ferons le compte des points à la fin de l'émission, à gagner. On va commencer par un premier round assez, on va dire factuel, et encore, on voudrait savoir qui est la plus grosse fanbase, qui a vendu le plus d'albums dans le monde, entre ces deux géants de la bulle, même si il y en a un qui est plus petit par la taille, mais qui est quand même grand par les ventes. Alors moi, je suis allé chercher quelques chiffres sur ce sujet. Est-ce que tu veux en parler un petit peu avant que je balance les chiffres sur la table?
Ouais, avant les chiffres, on peut dire quand même que Superman a un petit avantage, c'est qu'en fait, il est né 20 ans avant.
Ouais.
Donc, il démarre en 38, alors qu'Astérix, il arrive qu'en 59 dans le journal Pilote. Et du coup, rien que ça, ça lui donne quand même un sacré avantage au niveau des ventes et de la visibilité. Parce qu'à l'époque de Superman, il n'y avait pas grand-chose d'autre en face. Mmh. Et donc là, les lecteurs étaient plutôt accros, puisqu'ils n'avaient pas plus de choix que ça. Donc, il a un énorme avantage.
Oui. Effectivement. Alors... Moi, je suis allé. Puis il a un deuxième avantage, c'est qu'il est américain.
Et il est américain, c'est en anglais. Ouais, c'est vrai que ça aussi, ça change beaucoup pour la diffusion mondiale. Quoique Astérix est super bien traduit.
Alors, ouais, absolument.
On peut reparler, ouais. Mais, et puis en plus, Goscinny et Udarzo avaient une méthode de validation des traductions hyper forte, c'est qu'ils demandaient à ce que ça soit traduit dans la langue de destination, puis retraduit en français à partir de l'album de la langue de destination pour qu'ils valident si les blagues marchaient, s'il n'y avait pas eu des contresens, si ce n'était pas perdu aux oubliettes. Donc avec ce système-là, en fait, ils s'assuraient que ça marche un peu dans tous les pays. Mmh. Et c'est peut-être ce qui a fait le succès de cette BD à l'étranger. On sait par exemple, en Allemagne, c'est numéro 1. Il y a plein de pays comme ça où ils adorent Astérix, où c'est hyper fort, quoi.
Bah oui, parce que je crois que c'est 111 langues dans lesquelles Astérix a été traduit, ce qui est colossal, en fait. Je pense qu'il y a... Je sais pas s'il y a autant de... Il doit pas y avoir beaucoup de bandes dessinées qui ont eu autant de traductions différentes. Alors, sans doute que Superman en a eu autant.
Ouais,
ou pas
Tintin,
long.
Peut-être aussi.
Peut-être Tintin. Je sais que... Quand, alors, on tombe déjà sur un premier point aussi intéressant de différenciation entre le mode distribution comics et album, c'est le fonctionnement par chapitre des comics et le fonctionnement plutôt des albums de la BD franco-belge, ce qui fait que aussi c'est peut-être difficile de comparer.
Ouais.
Parce que d'un côté, on vend des albums qui sortent tous les, je sais pas, 3-4 ans. Ou je sais pas quelle était la fréquence à l'époque au début, c'était peut-être plus
ouais, c'était très rapproché. C'était un an et demi, c'était assez rapide les premiers. Ils ont vraiment enchaîné plus les succès, c'est-à-dire que ça marchait super bien et ils ont tout enchaîné. Mm. Mais comme tu dis, c'est vrai que au niveau aussi du prix, quand t'achetais un fascicule Superman, c'était quelques centimes, alors que l'album d'Astérix c'était déjà quelques francs, c'était plus cher.
Ouais.
Et après, il était quand même prépublié dans Pilote Astérix, mais c'était deux pages à la fois. Et alors que Superman, c'était quand même des mini-récits ou des demi-récits. Enfin, c'était quand même plus costaud. On en avait pour
c'était
son argent.
Des 24 pages ou des trucs comme ça. Je crois que c'est la norme maintenant. Peut-être que c'était pas le cas.
Ouais,
avant,
c'était pas forcément ça, mais il y en avait plus de pages. Ouais. Du coup, t'avais de quoi lire. Alors qu'Astérix, c'était deux pages. Enfin, moi, j'ai une collection de Pilote à la maison. Et quand t'essayes de lire un album entier, c'est une tannée. non, c'est horrible. Même si tu les as tous, c'est super long. Tu décroches, tu perds le fil.
Ouais.
Donc, peut-être il y a ça aussi qui a pas mal joué.
Donc, d'après Wikipédia, qui est une source. Qui sera la source qu'on aura aujourd'hui. Astérix, c'est le deuxième titre de BD le plus vendu au monde après One Piece. Donc je sais pas si c'est vraiment précis ou pas, mais en tout cas ça donne un ordre de grandeur avec 370 millions d'albums vendus de par le monde. Alors bon, je m'interroge toujours de comment on fait pour comptabiliser ce genre de choses. Je sais pas exactement quelle est la méthode, mais ça donne un ordre de grandeur. Alors, Superman n'apparaît pas dans ce top. D'ailleurs, il n'y a quasiment aucun comics qui apparaît dans ce top que j'ai trouvé là de vente d'albums, parce que pour les raisons que tu viens d'évoquer, en fait, c'est que les albums de comics sont finalement pas aussi vendus que ça. C'est plutôt vendu par fascicule, par chapitre qui sortent tous les mois.
Je pense que pour le classement, je pense que c'est un autre souci, c'est que c'est pas considéré comme une série. C'est-à-dire qu'en fait, Superman, c'est plein de séries. C'est des centaines de séries. Ouais. Et du coup, ils ont du mal, je pense, à les regrouper. Parce qu'il me semble que Superman, c'est avec Batman la série la plus longue en fait, qui existe. Si on met bout à bout, en fait, tous les épisodes. Mais comme à la différence de One Piece ou d'Astérix, qui sont l'œuvre de deux ou une personne et avec une vraie continuité, Superman, c'est l'œuvre de centaines de personnes, mais dans différentes séries. Donc je pense que peut-être la méthode n'est peut-être pas la même de comptabilisation.
Ouais, je pense que c'est ça. Ouais.
Mais si on empilait tous les Superman, je pense que c'est largement plus fort.
J'avais trouvé le chiffre de 800 millions, de 800 millions de ventes depuis le début, et ça me paraît même presque pas beaucoup, en fait.
Ouais.
Je sais pas. Bon, en tout cas, y a un autre point aussi, c'est comme on disait, Superman, même si Astérix a eu un énorme succès international, globalement, on a du mal à tester la pop culture américaine de manière générale, qui s'est diffusée d'une manière tellement vertigineuse depuis l'après-guerre que forcément, je pense que Superman, ça fait partie des quelques mots-clés qu'on peut sortir à peu près partout dans le monde et avoir une réponse. Bon, c'est très subjectif comme critère, mais...
Ah si, c'est vrai, je pense que tu vas en Sibérie avec une casquette avec un gros logo S, les gens savent que c'est Superman. Ouais. Après, tu viens avec un petit casque à ailettes, je pense qu'ils ont peur, ils savent pas ce que c'est. Puis, regarde, moi je suis venu avec un t-shirt Superman aussi.
C'est vrai.
Je me suis dit, tu vois, c'est comme quand tu viens au match, tu viens avec l'écharpe du club. Ben là, c'est pareil. Non, mais je veux dire, tout le monde sait ça en fait, on voit Superman, on l'identifie. Astérix, il y a moins de trucs iconiques.
Bon, alors ça fait un point pour Superman.
C'est bon, il y en aura pour tout le monde.
Je referai. Non, Bélix, tu es tombé dans...
Dans la marmite étant petit.
Bon, alors, la question suivante a vraiment à voir avec encore beaucoup de subjectivité, mais ça va nous permettre aussi de mettre en avant des grandes différences entre les deux. Moi, je voudrais savoir qui est le plus beau. Dans le sens, peut-être pas qui est le plus swag, mais qui est le mieux dessiné, en fait. Qu'est-ce qui va différencier les grands styles de dessin entre le comics et la BD franco-belge, s'il y a des différences majeures?
Alors ouais, il y a beaucoup de différences majeures, mais surtout, moi, ce que je vois en premier, le principal point d'accroche, c'est qu'en fait, Astérix, c'est l'œuvre de deux personnes. Et bon, maintenant, ça a changé parce qu'il y a des repreneurs, mais c'est surtout Albert Uderzo qui a dessiné toute sa vie avec des assistants. Il y a eu son frère, il y a eu d'autres gens, mais c'est lui qui a donné vraiment la patte. Alors que Superman, c'est pareil, c'est des dizaines et des dizaines de dessinateurs. Et justement, on a un peu tout derrière tous les styles, toutes les capacités. Et si on s'en tient vraiment au créateur, si on prend Joe Shuster, qui est le dessinateur originel de Superman, versus Albert Uderzo, bah là, quand même, c'est vrai qu'Uderzo, il a quand même un niveau incroyable derrière. C'est un technicien de génie. Il a pas son pareil pour l'anatomie. Il a su retraduire les codes de l'école belge, en fait, de J.G., Franquin, Maurice, toute cette école belge de Marcinelle. En fait, il a repris à son compte pour faire un style gronné, mais qui va encore plus loin. Et c'était un grand aussi humoriste visuel. C'est-à-dire qu'en fait, Goscinny est vraiment loué pour ses scénarios. Il met beaucoup du sien, de sa patte et tout. Mais Uderzo a vraiment apporté aussi un langage visuel, un comique visuel qui lui est propre et que ça aurait été un autre dessinateur, Astérix n'aurait peut-être pas la même force derrière. Et surtout, Uderzo, ce que je vois moi aussi, c'est qu'il sait tout traduire dans sa grammaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans les albums d'Astérix, il modélise en style Astérix des milliards de choses. Il y a des anachronismes, il y a des stars, il y a des... Et en fait, Tout coule de source, tout est bien fait et tout est vu par son prisme à lui. C'est pas de la caricature, mais c'est pas loin. Mais en même temps, c'est esthétique et c'est drôle et voilà, c'est bien vu. Et de son côté, Shuster, lui, il arrive d'un moment où il a pas de prédécesseur ou très peu. Et en fait, il invente carrément des codes avec ce qu'il a sous la main. Et évidemment, alors c'est hyper esthétique aussi, c'est l'ancrage, il est vraiment beau, les personnages sont sculpturaux, enfin on a ça, et puis on repense à cette fameuse, là on l'a pas sous les yeux, c'est du podcast, mais la couverture d'Action Comics où il porte cette voiture verte qui, après avoir secoué les méchants qu'il y a dedans, il va l'écraser contre un rocher, les jambes en avant, enfin le dynamisme, il est super. Moi j'adore cette case aussi, et je pense que si ça a été aussi fort dès le premier numéro, c'est qu'il y avait quelque chose aussi là derrière, quoi.
Ouais. Bon, du coup, on va quand même donner le point Astérix et Uderzo, alors, sur ce coup-là.
Bah, je crois que, ouais, là pour... Alors, après, c'est vrai qu'il y a eu plein de super dessinateurs qui sont passés sur Superman. Si rien qu'on dit Alex Ross et ses peintures, là, tout le monde devient fou. Et il y a eu des beaux albums, Kingdom Come ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que moi, je mettrais le point Uderzo parce qu'il y a vraiment un truc hyper fort derrière, quoi.
Très bien. Bon, bah, ça nous fait quoi, ça? Ça nous fait un partout, alors?
Ah ouais, un partout.
Encore une facture, j'en peux plus de cette papyrasse administrative.
Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout.
Imotez pas vous.
C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis « c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait, peut-être simplement à me mettre au service. »
Vous aurez reconnu Édouard Baird dans son rôle de iconique de scribe dans Astérix Mission Cléopâtre. La bulle, la BD, le comics et même un petit peu le manga, c'est aussi beaucoup une histoire de cinéma et de portage de licences sur grand écran. Donc là, on a envie de savoir qui a eu la meilleure carrière au cinéma, puisque tous les deux ont été très très présents sur le grand écran.
Ouais, et on parlait tout à l'heure de la radio, donc ils ont commencé un peu à la radio. Et en fait, Superman, lui, a été adapté très tôt en dessin animé, donc par les studios Fletcher. Et ça a été très important, notamment pour une chose, c'est qu'avant, Superman ne volait pas. Ah, Superman, oui. Il sautait. Oui. Il faisait des grands bonds entre les immeubles. Et en fait, les studios Fletcher, qui étaient donc avec des grands animateurs, se sont dit, non, visuellement, il vole. Enfin, ouais. c'est logique. En plus, il a une cape et tout. Et du coup, ils l'ont fait voler. Et ils ont transformé, je pense, la vie de Superman beaucoup plus vite. Mm. Et là aussi, il a pris une stature beaucoup plus forte et iconique qu'avant. Et c'est ce dessin animé qui en a fait aussi ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça a été hyper important pour son passage. Donc le côté grand écran ou petit écran joue beaucoup. Après, côté Cinoche, il y a eu les films avec Christopher Reeves.
Ouais.
Et alors moi, je suis né dans les années 80. Et malheureusement, l'acteur en fait a été tétraplégique après les films. Mais moi, ouais. Ça a été le moment où je les ai découverts.
Ah oui, d'accord.
Et donc, j'arrivais pas à associer Superman à cet acteur qui était tétraplégique, parce que c'était en même temps. Ouais. Et c'était hyper perturbant quand je les voyais, parce que mes parents m'avaient raconté ça. Du coup, je voyais Superman, je me disais, mais attends, mais le mec, il est... c'était bizarre.
Ouais,
Il a donné quand même de la force au personnage et il en a fait... une icône, c'est vrai que ça a super bien marché et il a eu un beau destin. Et si on le compare à Batman, qui du coup dans les années 60 était quand même vraiment clownesque et à côté, du coup Superman a bénéficié quand même d'une aura beaucoup plus sérieuse et qui correspond plus à l'esprit un peu DC, un peu sombre.
Oui.
Donc ça, c'était pas mal.
Ouais, c'est vrai que le premier film avec Christopher Reeve a pas mal marqué son époque. Le deuxième un peu moins, le troisième encore moins, puis alors le quatrième c'était un reboot avec Atomic Man et produit par la terrible firme Canon. Donc là c'était la grosse cata. Astérix a été aussi assez variable en termes de qualité au cinéma, dirons-nous, mais il y a quand même un gros volet animation.
Ouais, alors c'est ça, du coup c'est comme pour Superman, on parlait d'abord du dessin animé. Astérix ça a commencé par le dessin animé. Donc il y a eu une version non approuvée par les auteurs d'Astérix le Gaulois, qui a été fait par des producteurs belges en accord avec l'éditeur d'Argo, que Uderzo et Goscinny ont découvert. Mais ils ont laissé passer, donc ça a été sorti, ça a été un succès.
Ouais.
Et du coup, ils ont eu vraiment le champ libre pour faire leur propre dessin animé. Et là, il y a eu Astérix et Cléopâtre et les 12 travaux d'Astérix. Et là, ça a été vraiment super, quoi. Ils ont tout réussi, le scénario impeccable, l'animation vraiment superbe. Là encore, Uderzo, qui était fan de Disney, qui voulait être animateur, s'est mis à fond là-dedans. Ils ont créé un studio, Marvel, studio IDFX.
Ouais.
Ils ont trouvé des super doubleurs. Enfin, il y a eu Roger Carrel, il y a eu tous ces gens-là en fait qui se sont mis derrière. Des bandes son aussi super en fait. Oui. On s'en rappelle aussi, les chansons elles sont top.
Tout à fait. Ouais.
Et donc Mission Cléopâtre, pas Mission Cléopâtre, le petit lapsus pour la suite. Mais Astérix et Cléopâtre, ça a été vraiment très très beau. Et après, pour les 12 travaux d'Astérix, en plus, c'est un scénario original, donc ils sont allés encore plus loin, et là aussi, c'était exceptionnel.
C'est vrai que c'est hyper marquant, les 12 travaux d'Astérix, en fait. Je pense que tout le monde l'a vu au moins une fois, ou connaît l'histoire, ou s'en rappelle, enfin...
Ah, mais moi, j'avais la cassette, elle en était usée, tu sais, le début, les VHS... alors, les nouvelles générations n'ont pas connu ça, mais le début des VHS qui sont usés d'avoir trop rembobiné de ça, et ouais, je les ai vus des dizaines de fois.
Ouais.
Des dizaines de fois.
Bon, puis... Après, il y a eu les reboots animés en 3D de Alexandre Astier qui sont, bon, c'est subjectif, mais qui se tiennent bien, en tout cas surtout le premier, je trouve. J'ai eu du mal avec le deuxième, là, mais c'est très personnel.
Ouais, c'est ça, mais le deuxième, c'est un scénario original, donc là aussi, on est dans un truc un peu qui change.
Ouais.
Mais là aussi, c'est intéressant de voir qu'il a eu l'autorisation, alors que tous les autres avant n'ont pas eu.
Ouais.
C'est-à-dire que le Domaine des Dieux qu'il a fait juste avant avec Louis Clichy, donc ils sont deux à chaque fois, il a été tellement réussi et tellement fait avec amour, entre guillemets, qu'en fait on lui a dit bah ok, c'est tellement beau et ça ressemble tellement à ça que tu peux faire un scénario original, mais c'est vrai qu'après il déroute un peu par rapport au reste quoi.
Après, si on regarde l'époque récente de l'un et de l'autre, que ça soit Superman ou Astérix, en termes cinématographiques, live action comme on dit, avec des acteurs, j'ai envie de dire, dans les deux cas, c'est compliqué.
Oui, exactement. C'est pour ça qu'on les a mis à la fin. Ouais. On a commencé par parler des trucs cool. Et alors, on commence par quoi ? Le pire ou le moins pire ? C'est pas vrai, parce qu'Astérix, il y a quand même Mission Cléopâtre, qui est un gros chef-d'œuvre.
Ouais.
Et l'extrait que t'as mis avec Edouard Baird, il est assez emblématique, parce que ça montre ce que c'est l'esprit du film. En fait, Alain Chabat, il a réuni un casting assez cool autour de ça. Il a réécrit un peu le scénar pour le moderniser à sa patte. Mais surtout, je crois ce qu'il a fait de vraiment bien, c'est qu'il a laissé des moments d'impro en fait, aux acteurs. Et en fait, ce monologue d'Edouard Baird qui est si emblématique, moi je l'ai vu sur des t-shirts, enfin, il repart partout en boucle, il est complètement improvisé. C'est-à-dire que c'est Edouard Baird en roue libre qui invente son truc, qui incarne son personnage, et il déroute tout le monde en fait, et c'est sa patte à lui. Et Chabat, je l'avais entendu à la Cinémathèque quand il y a eu la grande expo sur Goscinny l'année dernière. Il disait que en fait, ce film est plein de moments de liberté en fait, d'acteur. Il leur a dit, bah, écoute, le cadre, c'est ça. Tu connais le personnage, tu connais l'univers. Et chacun s'est approprié son perso. Et je pense que c'est ça qui fait la force du film par rapport aux trois autres qui sont moins réussis.
Oui.
Alors, le premier, peut-être pas si mal. Je l'ai pas revu. Je l'ai vu avec mes yeux de jeune ado. Il était pas si mal, mais je sais pas en dire plus. Par contre, les deux suivants, les Jeux Olympiques et... je sais plus ce que c'est.
C'est les Anglais.
Les Bretons.
Avec Edouard Baird.
Là, c'est une tannée. Je crois que les Jeux Olympiques, moi, je l'ai arrêté.
Il est apocalyptique. Il est horrible, en fait.
C'est horrible. Jeux Olympiques. Et de ma vie, je crois que j'ai arrêté 2-3 films, et ça en fait partie, quoi.
Ouais,
et
ouais.
Pourtant, j'ai vu des bégabouzes.
Ouais.
Et je suis allé jusqu'au bout. Et là, j'ai dû arrêter. Non, c'était incroyable.
Bon.
On n'a pas parlé de Superman.
On n'a pas parlé de la déconfiture du DCU. De cette espèce de reboot gritty que DC a voulu mettre en face de Marvel il y a quelques années. Alors ça avait commencé de manière déjà assez discutable, je pense, enfin ça c'est personnel, mais avec Man of Steel que je trouve qu'il y a une adaptation de Dragon Ball Z pas mal, mais par contre en termes d'adaptation de Superman, moi j'avais l'impression qu'on était un peu à côté du personnage. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais...
Moi j'ai aimé le début, toute la première partie, le côté cool. Où il se cherche, le côté pas film indé mais presque quoi, le mec. Il est tout seul, il réfléchit sur lui. Ouais, et puis tu vois, il y avait Into the Wild pas longtemps avant, puis il y avait ce côté là un peu connexion à la nature, le mec qui vient de l'espace, enfin, tout était bien ça.
Et Henri Cavill est cool.
Henri Cavill est super cool, c'est un bon interprète. Puis il a la stature, la naïveté, enfin je sais pas comment dire, il l'incarne. Par contre après, ils se sont mis à tout foirer. C'est-à-dire qu'ils ont mis Zod, mais mal fait. Et puis après, l'espèce de menace d'inverser les pôles de la Terre, Et en fait, ça faisait vraiment film des années 80.
Ouais, c'est vrai.
Genre le mauvais Highlander, tu sais, quand ils ont voulu cacher le soleil. Là. C'était ce niveau-là. Et donc ça, je sais pas, voilà. Ça, et, ouais. Et à partir de là, c'est parti en sucette, mais vraiment, tout n'allait plus. Et ce qui est bizarre, c'est que Zack Snyder, moi, il m'avait bluffé sur Watchmen.
Oui.
Et le Man of Steel a trop bien commencé dans le cinéma. J'étais comme un fou. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu arriver les mecs Zod et puis les extraterrestres, et puis comme tu dis, c'est devenu Vegeta et, ouais. Et les mecs compteurs de puissance. Enfin, du coup, c'est devenu n'importe quoi. Non, c'était moche. Et après, bah, malheureusement, ils ont enchaîné les trucs mauvais, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que Batman contre Superman, c'est... Alors, en fait, DC, si j'aimerais bien qu'ils écoutent ça, il faut qu'ils aient un problème avec les méchants. C'est-à-dire, en fait, ils n'arrivent pas à opposer des bonnes némésis. Tu vois, ils n'arrivent pas à trouver... C'est-à-dire qu'ils ont mis Doomsday, en fait, dans le 2. Mm. Sauf qu'au lieu de le faire arriver comme une créature, comme il est, en fait, un peu incontrôlable, on ne sait pas d'où il vient, eh ben ils ont pris quoi ? L'ADN de Zod, encore, pour en faire un monstre dégueulasse. Et puis, du coup... Enfin, voilà, ça a aucun sens. C'est ridicule. Après, le combat Batman et Superman, il y a quand même des trucs cool.
Oui.
Il y a quand même des super chorégraphies quand Batman. Enfin, voilà, il y a vraiment de la chorégraphie. Il y a vraiment des moments entre eux, des regards. Je trouve ça, c'est plutôt chouette.
Mais alors, pour le coup, je trouve que la rivalité Batman-Superman, là où elle est le mieux exploitée, c'est dans les adaptations Lego.
Alors, t'es pas le premier.
Dans les Lego Batman et tout ça, et même tous les. En fait, il y a Lego Batman qui était la suite de la grande aventure Lego qui est sortie, et puis il y a aussi tout un tas de films d'animation Lego que DC a sorti, enfin DC Warner du coup. Et ils sont souvent très drôles et très réussis, et ils jouent très très bien sur la rivalité entre Batman et Superman, avec le second degré qui est complètement absent, enfin, ou plutôt qui arrive malgré lui dans Batman vs Superman, avec un point culminant avec quoi, ta maman s'appelle Martha comme ma maman. Bon, on est copains alors
c'est vrai, ça fait un peu rire, mais en même temps c'est assez puissant pour la remise en question du personnage. Mais c'est juste que si tout le reste n'était pas si ridicule, je pense que ça aurait eu un impact incroyable.
Oui.
Mais comme tout le reste est un peu con, ça n'a pas marché.
Bon, mais, donc bon, on va donner le point à notre ami Gaulois alors.
Ouais, je pense entre les films, les dessins animés originels et les films d'Asti et Clichy, je pense qu'il n'y a pas photo là.
Superman, c'est bien que tu sois là, tu vas nous donner nos instructions.
Ok, les filles, toi, numéro 6, ta mission consiste à amener Derrick vers la montagne Spiridion. Là, une surprise l'attendra, si tu vois ce que je veux dire.
Montagne Spiridion, d'accord. Je sais comment je vais faire.
Quant à toi, Roger Moore, tu vas t'occuper de drôles de dames.
Ah, super, j'adore.
Empêche-les d'accepter la proposition de Derrick. Elles sont en vacances à Mururoa, pas de question.
Comment tu fais pour parler sans bouger les lèvres,
Eh bien, c'est un don que j'ai depuis tout petit. Dans le métier, on m'appelle le super ventriloque. Allez, salut les filles.
Oh, regarde là-haut dans le ciel, un oiseau.
Non, un avion.
Mais non, c'est Superman.
Alors, c'était un extrait de Derrick contre Superman.
J'adore. De Morzinor, il est...
Non, c'est Michel Hazanavicius qui l'avait fait, en fait.
Ah, oui.
C'était préalable à sa classe américaine. Là vous avez pas le visuel, mais en visuel on voyait donc le Superman des années 50 qui discute avec le prisonnier de la série Le Prisonnier et Roger Moore.
Ouais, c'est ça. Voilà. Avec sa petite voix pincée de je flippe si je veux.
Voilà, exactement. Et il y a un extrait avec Roger Hanin qui va mourir de rire aussi. J'ai pas mis parce qu'il a vraiment rien à voir, mais
ouais, puis à un moment aussi il y a un extrait génial avec les communistes. Mais bon Dieu, vous êtes communistes.
Et donc il y a Derrick, bref, le crossover le plus improbable de l'histoire de la télévision. On voudrait savoir maintenant qui a la meilleure team, parce que dans les deux cas, on a d'un côté le DC Universe avec toute la Justice League, Batman, Aquaman, Wonder Woman, Hawkman, et que sais-je, Green Lantern, et de l'autre côté, on a quand même une belle bande de Gaulois aussi.
Mmh.
À ton avis, qui est... là c'est très subjectif, mais dis-moi, selon toi, qui a la meilleure team ?
Alors là, moi je dirais, je le sépare en deux. Il y a la meilleure team, entre guillemets, des potes. Et ça, c'est le côté Astérix. C'est-à-dire que, bon, déjà, ils ont un espèce de Hulk avec Obélix.
Oui, c'est vrai.
Finalement, le mec est intouchable. tu peux pas le.
Oui, c'est vrai.
Tu peux pas l'avoir, sauf cas exceptionnel. Et du coup, ils ont eu du mal à lui trouver une kryptonite. Mais par contre, c'est la force d'Astérix, c'est. finalement, c'est pas la bagarre qui résout tout, c'est l'espèce de connexion qu'ils ont entre eux, les relations qu'ils ont, les rencontres qu'ils font. À chaque album, ils rencontrent quelqu'un, puis ils l'aident ou ils deviennent copains, enfin, il y a un truc comme ça. Alors que Superman, avec sa Justice League, là, c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'ils ont une relation un peu à la fois de boulot et conflictuelle. Mm. En fait, il y a toujours un truc, c'est que Batman, dans tous les comics, il a un plan pour buter n'importe lequel. Ça, c'est assez marrant, c'est qu'il le dit plusieurs fois et ouais. Ça devient un gimmick assez intéressant. C'est qu'en gros, Batman fait confiance à personne. Il ouais. collabore beaucoup, mais en gros, il dit « Je peux éliminer n'importe lequel d'entre vous à n'importe quel moment » et puis il a un plan pour tout.
Ouais.
Et en fait, la Justice League, c'est un peu genre... quand Superman n'est pas là, il y a les remplaçants. Mais en vrai, s'il arrive, il défonce tout le monde en 4 minutes. Donc ouais. finalement, il n'a pas trop d'intérêt d'avoir une équipe, si ce n'est peut-être de moins douter de lui. Mm. Moi je le vois un peu comme ça, mais ouais, je sais pas ouais. si toi tu dirais ça aussi.
Oui, c'est effectivement en termes de relations d'équipe. Après, je connais pas hyper bien le personnage de Superman, j'ai pas lu énormément de comics de Superman, mais c'est vrai que j'ai l'impression que Batman est plus intéressant dans cette dynamique de groupe, dans le sens ouais. où, bah, par rapport à tout ce que tu disais, hein. C'est vrai que Superman, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un. Enfin, les quelques comics Justice League que j'ai lus, en général, Superman est bloqué quelque part parce que si ou parce que ça.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, bah, tout le monde galère en attendant que Superman arrive, quoi.
Voilà, en fait, les mecs, ils gagnent du temps dans le temps qu'ils, ouais. qu'ils se libèrent. C'est un peu ça l'idée, quoi. Et,
ouais, ouais.
Donc ça, c'est un peu marrant. Et d'ailleurs, dans la mort de Superman, qui a été un des ouais. gros récits phares,
oui.
Justement, la Justice League galère avec Doomsday, ce fameux monstre mmh. incroyable. Superman arrive et se fait éclater. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'était hyper ouais. bien vu. Hyper couillu, quoi.
Ce qu'ils ont plus ou moins repris dans les films, mais à moitié, mal, enfin bref, voilà. dans le désordre.
On le refait pas.
Bon.
Mais c'est ça qui est assez marrant. Et par exemple, il y a des récits de Superman. Je repense justement, on parlait de Kingdom Come, où ça se passe dans un futur. En fait, Superman a raccroché. Donc il veut plus être super-héros. Et il vit sur une espèce de base lunaire qui reproduit le Kansas, où il laboure des champs. Et donc il y a toute une nouvelle équipe sur place qui gère, et en fait à un moment qu'il n'arrive plus à gérer, et on le rappelle, et il revient, et il est vieux, et il n'a pas envie,
ah ouais.
et ça c'est assez marrant, et je trouve que ça, et ce truc incarne bien son état d'esprit, que même jeune ou même tout ce qu'on veut, finalement il n'a pas tant envie que ça, en fait il est là, il a les pouvoirs parce qu'il vient d'une autre planète... mais c'est pas un héros en lui
oui.
alors qu'Astérix il y a un côté je veux sauver le monde et je veux aider c'est à dire que dans les Astérix il y a toujours une situation de départ il y a toujours un moment où il se retrouve avec Panoramix et Abraracourcix le chef de village et en fait il décide de faire quelque chose et puis Astérix c'est toujours hyper volontaire et, bah, je vais y aller, je vais faire ça ouais, je suis prêt à prendre le bateau, partir à l'autre bout du monde enfin il y a un côté comme ça qu'il n'y a pas dans Superman
Et puis le comment dire le Astérixverse si on peut l'appeler comme ça est assez attachant parce que entre que ce soit l'ensemble du village où il y a tous ces personnages qu'on connaît même si on connaît pas leur nom mais on sait qu'il y a le poissonnier, le forgeron, le barde, enfin et puis même chez les Romains ou même chez leurs copains dans d'autres territoires. Bon après. Après, l'univers DC, c'est un univers gigantesque avec des millions, enfin des millions, pas des millions peut-être, mais quoique, des centaines de milliers de personnages. Non, j'ai encore exagéré là. Hein.
Ouais,
des millions, des centaines de milliers. Alors on va dire, peut-être des milliers hein, quand même.
Mais bon Dieu, vous êtes communiste. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y en a plein qui ont été créés dans différents supports, puis ils ont rassemblé ça, et puis après, ils ont racheté des licences, ils ont augmenté. Et ils ont eu aussi une grosse période en fait où ils ont fait plusieurs versions de chaque personnage avec des terres parallèles. Donc
voilà.
Flash pouvait être trois Flash différents, ouais. etc. Et du coup, ils ont commencé à démultiplier, à enrichir, à faire des versions de tout. Puis ils ont voulu rassembler tout ça en détruisant un peu ces terres. Puis maintenant, on est reparti, on a un multivers. Et du coup, ça permet aux créateurs d'utiliser plusieurs personnages de plusieurs époques, celles qu'ils aiment le mieux, de confronter, de faire des meilleures teams, des choses comme ça. Mais effectivement, ça brouille les cartes et du coup...
Oui, c'est ça, on est quand même un peu perdu. Ouais,
pour les lecteurs, finalement, si on n'a pas suivi depuis longtemps, c'est plus difficile. Et on revient à ce qu'on disait sur Marvel en France, c'est que du coup, Marvel est quand même plus simple à appréhender.
Ouais.
Et en plus, Superman, malgré le fait que c'est le plus ancien, le plus iconique, est-ce qu'on veut, finalement, c'est pas le plus simple à lire. C'est-à-dire que Batman est beaucoup plus facile à appréhender, il y a des récits beaucoup plus iconiques, c'est plus jalonné, je dirais. C'est plus facile à appréhender. Alors que Superman, c'est pas évident, en fait.
Bon, bah écoute, ça fait un point pour Astérix, enfin un point supplémentaire pour Astérix, donc on en est à 3 points pour Astérix, mais restez avec nous.
Oh là là.
L'espace, le dernier territoire inexploré. Une étendue de ténèbres sans fin. Ici, au bord de l'univers, je contemple les abysses et les...
Batman !
Je contemple les abysses et...
Bruce !
Sérieusement ?
C'est ta nouvelle combinaison spatiale ? En tout cas, ta combinaison est vraiment belle ! Moi, je te le dis entre héros, elle te va vraiment bien.
Il a raison. Elle met vraiment en valeur ta ligne.
Bof, tu aurais dû rester en noir. Ou peut-être en gris très foncé.
Alors, c'était un extrait d'un Lego Batman version animation sorti il y a quelques temps, je ne sais plus quel c'était, où une fois de plus, on joue sur le contraste Batman très sérieux, très sombre, et qui se fait moquer par Superman et la Justice League pour son côté très, très dark. Alors, cinquième point, ça serait qui gagne dans un combat à main nue, avec potion magique. Enfin, à main nue, en tout cas sans armes, puisque Superman a quand même des yeux laser.
Ouais.
On peut dire que c'est une arme. Avec potion magique, voilà. Bon, alors à ton avis, s'ils se foutent sur la gueule, qui va finir par gagner ?
Bon, bah là, je pense qu'il n'y a pas photo, Superman est largement supérieur. Enfin, bon, après, c'est dur de comparer, hein, parce que la potion magique, on sait pas vraiment jusqu'où ça va, mais vu ce qui se passe dans les Astérix et vu ce qui se passe cosmiquement dans les Superman, je pense qu'on peut en déduire que ça serait Superman, non ?
Bah, oui, je pense aussi que, in fine, ça serait quand même Superman, parce que Superman est quand même revenu de tout. De la mort, du soleil, non, il se prend des bains de soleil pour retrouver la patate, d'une explosion nucléaire, bref, Superman résiste à tout, alors que Astérix, sans potion magique, c'est chaud quand même.
Ouais, puis même avec potion magique dans l'espace, magique, à mon avis, ça dure pas longtemps.
Après, Astérix, c'est quand même malin.
Ouais. Donc c'est sa force qu'a pas Superman, en fait. Superman, du coup, justement, la Justice League lui permet d'avoir l'intelligence de Batman ou de Barry Allen ou de mecs vraiment costauds.
Ouais.
Alors que lui, il a la droiture, mais il n'a pas forcément un plan.
Ouais.
Alors que les autres, ouais. Et Astérix, c'est ça, il a un plan. Généralement, oui.
Il est rusé.
Il est rusé, ouais.
Ce qui est curieux, parce que il me semblait avoir compris que Superman était super intelligent aussi. En termes de science, enfin, il était aussi intelligent que... Est-ce qu'il est aussi intelligent que Lex Luthor ou pas, tiens ?
Moi, je dirais non, en fait, parce que Lex Luthor, il brille vraiment par ça, c'est qu'il a un esprit et surtout un contrôle de lui-même incroyable, en fait, un self-control super fort. Et Superman est vachement plus sanguin. C'est marrant parce qu'il a le côté droit et impassible. Mm. En fait, dans plein d'histoires, il pète un câble. Enfin, il se laisse emporter par ses
émotions.
Ouais, par ses émotions, finalement. Et du coup, c'est ce qui le rend un peu humain. Et je pense que c'est ça aussi qui marche bien. C'est qu'il est, humain derrière ce côté homme d'acier. Mm. Mais il est pas si malin que ça. Enfin, il est intelligent, tout ce qu'on veut, mais il est pas si malin.
D'accord.
Il a jamais un coup d'avance comme pourrait avoir justement d'autres persos comme
Batman ou Lex Luthor.
Ouais, voilà, c'est ça. Eux ont un coup d'avance. Et si on regarde par exemple le Superman de Morrison, All-Star Superman, où en fait ça commence. Je fais pas de spoiler, mais Superman a un genre de cancer et il va mourir. Mm. Et en fait, il revoit un peu toute sa vie. On voit tout ce qu'il a accompli et finalement c'est pas tant que ça. Et puis on voit tout ce qu'il veut faire avant de disparaître, bah c'est pas fou non plus, alors que Luthor à côté a des plans mais à 50 ans d'avance, il se clone lui-même, il réfléchit à des trucs, à des sphères vachement plus fortes. En fait, Superman il est pas à ce niveau là je trouve.
Bon, mais donc, pour en revenir à notre question d'origine, en combat direct, quand même, Superman gagne.
Ouais, je crois que c'est Superman, ouais.
chic des Romains.
Centurion, à quoi bon y aller encore une fois? Vous savez ce qui va nous arriver? Ces types-là sont pas humains.
Peut-être, mais ce sont les ordres de Jules César. Qui sait? Peut-être que cette fois-ci ce sera différent. Surveillez la porte!
Engagez-vous! Rengagez-vous, qui disait!
Ça n'a pas été très différent des autres fois, hein, Centurion?
Bon. Une situation classique dans Astérix qui nous rend les Romains assez attachants en fait à chaque fois, parce que il faut à chaque fois qu'ils les pauvres soldats romains se font envoyer au front contre les Gaulois, et à chaque fois ça finit de la même façon.
C'est ça.
Ça fait 3-2 pour Astérix. On a décidé de remettre un round bonus.
Cool.
Moi, je voudrais savoir qui a la plus belle moustache. Spontanément, on pourrait penser à Astérix, mais je crois que t'es venu avec un argument de poids dans ta besace.
Ouais, en fait, avant le podcast, je me suis dit, tiens, je vais re-regarder quelques extraits des films et tout pour me remettre dedans. Et en fait, les moustaches des acteurs qui incarnent Astérix sont horribles. En fait, si vous écoutez ce podcast, ouvrez une fenêtre dans votre navigateur, regardez Clovis Cornillac en Astérix, c'est horrible. Enfin, ils lui ont fait une moustache frisée qui dépasse, il est tout dégueulasse. Enfin, c'est pas possible, ça ressemble à rien du tout. Voilà, encore Edouard Baird, ça passe un peu. Mais les claviers, il est quand même pas top. Du coup, il manque de crédibilité. Et alors, du côté de Superman, on a eu un gros clash de réseaux sociaux, voire plus que ça en fait, puisque pour ceux qui savent pas, donc en fait, Henry Cavill, l'acteur qui incarne Superman, jouait dans Mission Impossible et s'est laissé pousser la moustache pour son rôle. Et en fait, en même temps, il devait retourner des scènes de Superman, et donc sans pouvoir raser la moustache. Et donc, numériquement, ils ont retravaillé son visage pour effacer la moustache. Et c'est affreux parce qu'il ne se ressemble pas du tout, en fait. Ça lui fait une autre tête. Et du coup, c'est hyper perturbant. Et donc, je comprends la colère des gens qui étaient attachés à ces films. Parce que vous avez compris, nous, on n'est pas attachés à ces films. Mais en tout cas, oui, c'est très déroutant. Et puis, c'est une énorme erreur. Enfin, sur des films à tellement haut budget, je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, en fait.
Ouais, ça fait partie de la légende du gaufrage du DCU récent, entre ça, les reboots, le Joker, l'autre Joker. On comprend rien.
On comprend rien, mais là, c'est une erreur tellement, tellement évitable, factuelle, quitte à repousser la sortie, je sais pas, de quelques mois, enfin, j'en sais rien, comment c'est possible, mais là, c'est tellement fou. Puis que les mecs aient l'idée quand même de dire, ok, il a une moustache, on va numériser son visage sans moustache et on va le refaire, c'est quand même fou.
Ouais. Ah oui, c'est catastrophique, le rendu à l'écran est catastrophique, quoi.
Ouais, c'est un raté complet. Enfin, je sais même pas comment ils sortent les images. Enfin, il y a bien un mec qui valide oui ou non, mais là non. Et alors du coup, ce truc là était assez marrant, et j'ai regardé quand même sur internet, et Henry Cavill a un super humour, et en fait sur Instagram, son fil Instagram, il a créé un petit post de réponse aux fans et aux détracteurs, en fait, où il fait parler sa moustache. Et donc c'est génial, ça. Il y a l'humour du mec qui comprend qu'il a fait un truc, c'est pas exceptionnel, mais il y a eu un truc tellement bizarre qu'il a dû prendre la parole là-dessus, parce que les producteurs de films n'ont pas donné les bonnes réponses, puisqu'ils se sont contentés de trucs un peu bateaux. Et lui, il a carrément fait un post où c'est la moustache qui parle. Et il dit, voilà, cher fan, Henri dort, donc je prends la parole. Et il raconte tout un truc Et c'est hyper malin, c'est hyper marrant. Et en fait, on peut que se dire que c'était un bon choix pour ce personnage-là. Et qu'au contraire, c'est ce qu'ils ont fait du film, et peut-être l'impatience, et peut-être le fait d'avoir fait des coupes et des choses comme ça qui a cassé le film. Et c'est pas lui qui était pris sur un autre film aussi où sa moustache lui paraissait essentielle.
Je crois qu'il a, je crois que c'est à la fin de mission du tournage de Mission Impossible, il a offert une pièce qu'il a fait lui-même en fait, une pièce de monnaie. Bon, avec lui dessus, je crois quand même, qu'il a offert à toutes les personnes qui ont travaillé sur le film, qu'il a envoyé avec un courrier et avec une signature du genre moustache m'en vôtre ou un truc comme ça. Et c'est vrai que Henry Cavill est vraiment un acteur cool et un mec qui a l'air super cool, quoi. Et il en a vraiment joué avec intelligence de tout ça. Donc, malheureusement, il n'incarnera plus Superman à l'écran. C'est bien dommage parce que je trouve qu'il apportait vraiment un truc hyper positif au personnage et c'est un vrai bon acteur. Et donc voilà. Donc, ouais. on a envie de donner le point à Superman pour récompenser Henry Cavill de tous ses efforts en fin de compte.
Ah ouais,
quoi.
Ouais. Et puis on lui envoie un CD de Philippe Catherine. Enlève ta moustache. Enfin, non, il est. Je pense qu'il n'y a pas photo. Et puis, non, regardez les photos des acteurs qui jouent les Astérix. De toute façon, s'il les change aussi vite, c'est qu'il y a un truc où ça ne marche pas.
Bon, bah on donne le point de la moustache à Superman pour. Pour tout l'amour qu'on a pour Henry Cavill.
Pour service rendu.
Pour service rendu. Et on finit sur 3 partout. On se quitte bons amis.
Oh là là.
Voilà. Bah Thomas, merci beaucoup.
Bah merci Martin de m'avoir invité.
Bah, je t'en prie. Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, on peut me retrouver sur Bubble. Donc, soit l'application en tapant Bubble BD dans les stores, soit bientôt sur le site internet appbubble.co. On a aussi une newsletter, on a aussi un site avec des chroniques tous les vendredis. Bientôt, peut-être un podcast aussi. Donc voilà, on a des réseaux sociaux. Tapez Bubble BD partout sur Twitter, Facebook et Instagram.
Très bien. Oui, si on s'abonne, on recevra des emails de ta part.
C'est ça, je vais essayer de faire une photo avec une moustache alors pour les prochaines.
Très bien. Bon, et ben, quant à moi, vous pouvez me retrouver dans les prochains épisodes de C'est qui le plus fort. Pour le prochain épisode, on va sûrement rester dans l'univers. On va encore reparler un peu de comics et de BD, mais pas seulement, puisque on vous proposera une opposition entre Zeus et Odin.
Ah, pas mal.
Eh bien, merci beaucoup, portez-vous bien, et n'oubliez pas d'aller voter aussi sur le site internet pour qui est le plus fort entre Astérix et Superman, selon vous. À bientôt.
À bientôt.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.